Monde, prenons place. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous avons beaucoup de distractions. Chacun vient avec son lot de soucis, d'inquiétudes, de tracas ce matin. Mais nous voulons être calmes devant toi. Nous te prions que tu remplisses notre cœur de paix pour que nous puissions t'écouter comme il convient. Que nous puissions adorer ton Fils, que nous puissions nous concentrer sur lui, ce bon berger qui est si bon envers nous, qui a donné sa vie pour nous. Nous te prions que ton esprit nous anime aussi pour que ta parole soit claire, qu'elle soit audible, que nous puissions écouter ta voix et non la mienne, et avancer selon ton plan bienveillant pour nous. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour cette parole, au nom de Jésus. Amen. Nous parlons aujourd'hui d'un thème bien spécifique. On va lire d'abord les psaumes avant de continuer en Jean, Jean chapitre 13. Mais le psaume d'abord, 41 s'il vous plaît. Ouvrons notre Bible pour lire cela. Psaume 41, versets 5 à 10. Psaume 41, verset 5. C'est un psaume de David, et voici ce qu'il dit. « Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, « Quand mourra-t-il ? Quand s'éteindra son nom ?» Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il récolte des sujets de médire, puis il s'en va et en parle à l'extérieur. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils méditent sur mon malheur. Il est gravement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et quelques psaumes plus tard, au chapitre 55, psaume 55, nous lisons au verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, c'est toujours David qui écrit, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, elle est dans leur cœur. Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Il me délivrera de leurs assauts et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui siège de toute éternité. Nous parlons aujourd'hui de la trahison. La trahison. Ce que David décrit ici dans les Cantiques sont des moments où un proche, quelqu'un avec qui il était ami, qui mangeait avec lui, devint un adversaire. Nous n'avons pas tous connu cela, mais Jésus lui aussi est passé par là. Et aujourd'hui, on va le découvrir dans ses propres mots, en l'évangile de Jean. On continue dans l'évangile de Jean ces prochaines semaines, Dieu voulant. Aujourd'hui, Jean 13, c'est là que nous allons voir l'ombre de la trahison. Merci Patrick de nous avoir montré la semaine passée ce Jésus extrémiste. Vous vous souvenez ? Ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême, dit le verset 1 de Jean 13. Jésus extrémiste, c'est pas souvent comme ça qu'on imagine les extrémistes, n'est-ce pas ? Mais Jésus était extrême dans son amour. Mais voici ce Jésus, rempli d'amour, avec ceux qui sont censés l'aimer, et il annonce qu'il va être trahi. L'évangile de Jean, chapitre 13, verset 18. « Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis, déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit, moi. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, la gloire de Dieu a été révélée en lui. Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Mais tu m'y suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donnerais ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » Je propose de faire un survol de ce texte, un survol rapide de ce texte, et puis on va approfondir avec trois questions. Tout d'abord, en survol, Jésus savait qu'il allait être trahi. En fait, c'était déjà mentionné au verset 2 par Jean, c'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Et au verset 10, que nous avons lu la semaine passée, Jésus dit, vous êtes purs, pardon, mais pas tous. Il savait déjà que l'un de ses disciples n'était pas pur. Et ici, il le dit ouvertement, en citant un des psaumes que nous venons de lire, le psaume 41. Vous savez comment un cheval ou un âne peut subitement donner un coup de pied et peut faire des dégâts. Eh bien, c'est ce que l'ami allait faire en levant le talon contre lui. Un coup bas. Mais personne ne sait qui est le traître. Et donc, quand Jésus annonce que quelqu'un va le trahir, ils se regardent tous les uns les autres. Personne ne sait. Aujourd'hui, le mot Judas signifie traître. Si vous regardez dans le Larousse, vous trouverez à côté de Judas le mot traître. Mais ce n'était pas comme ça à l'époque. Il n'avait pas un nom qui signifiait traître. Il n'avait pas l'air d'être un traître. Sinon, quand Jésus annonce cela, au lieu de verset 22 où ils se regardent les uns les autres, sans savoir de qui il parlait, ils auraient tous regardé vers Judas en disant « Est-ce que c'est lui ?» Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas évident que c'était lui. Et donc Pierre demande des informations à Jean qui était à côté de lui. Peut-être que vous avez vu des peintures un peu comme celle-ci, mais ce n'était pas comme ça. Cette peinture et les autres qui lui ressemblent n'étaient pas évidemment des peintures de l'époque. Je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi ils étaient tous d'un côté de la table et pas de l'autre côté de la table, ce n'est pas normal. Mais en plus, à l'époque, pour ce genre de festin, de souper, c'était plutôt dans le style romain, ils étaient couchés sur le coude, en train de se servir dans un plat, dans quelques plats qui étaient au milieu d'eux, ils étaient un peu en forme de U, autour, avec leur banquette, autour de ces plats pour le repas. Et donc, Jésus est tout près de Jean, Jean lui demande la précision, et Jésus ne dénonce pas Judas. Ce serait intéressant, n'est-ce pas, s'il aurait dit à tout le monde, « Ah, c'est Judas !» Mais en fait, il ne veut pas empêcher Judas de le faire. Et donc il donne un petit signal pour Jean, qui va sans doute le relayer à Pierre aussi, parce que Pierre lui avait demandé, pour qu'on sache que c'est Judas et que Jésus savait que c'était Judas. Et Satan entra en lui, dit le texte. Mais c'était caché. Il n'a pas changé d'air, probablement. Il n'a pas eu de manifestation. Il était discret. Mais néanmoins, il était maintenant sous l'influence du diable. Au verset 27 et 28, Jésus lui dit ce que tu dois faire, fais-le, ce que tu fais, fais-le rapidement. Et personne ne saisit, verset 28, que Judas va trahir Jésus. Mais Jésus accélère le rythme. Dans un autre évangile, il dévoile à Judas que c'est bien lui, quand Judas dit « Est-ce que c'est moi ?» et il dit « Oui, c'est toi. » Mais bien entendu, il ne faut pas imaginer que ça se passe dans le silence. Ils étaient 13 à ce repas. Et ils étaient tous en train de parler en même temps. Et donc, il peut y avoir des conversations en aparté, des choses dont les autres ne se doutaient pas. Ils sont bavards, ils sont en train de protester. « C'est pas moi. Moi, je ne vais pas te trahir, Seigneur. » Et peut-être que les soupçons étaient attirés par d'autres des disciples. Matthieu allait-il retourner sa veste, retourner travailler avec les Romains, comme avant, quand il était collecteur d'impôts? Est-ce que Jacques allait être emporté par la colère qui le caractérisait comme fils de tonnerre? Est-ce que Simon allait péter un câble et faire quelque chose de tout à fait imprévisible, trahir Jésus? Et donc, ils sont tous en train de s'accuser ou d'avoir des soupçons vis-à-vis des uns des autres. Et puis Judas sort dans la nuit, l'heure avance, et le traître est maintenant dans les ténèbres. Judas ne verra pas Jésus ressuscité. Judas ne recevra pas le Saint-Esprit à la Pentecôte. Judas sera perdu. Et Jésus, avec ses disciples, alors, les autres disciples, là il va leur parler de sa gloire, il va parler du fait que personne ne peut le suivre, parce que, Simon l'a bien compris, il va vers la mort. L'endroit qui est inaccessible pour les autres, c'est la mort. Et Simon dit, mais moi je suis prêt à te suivre jusqu'à la mort, verset 37. Je donnerai ma vie pour toi. Mais il a compris le travers. Ce n'est pas Simon qui donnait sa vie pour Jésus, c'est Jésus qui donne sa vie pour Simon. Pierre surestime ses capacités. Alors voilà, on survole ce qui se passe dans ce texte, mais maintenant on va essayer de poser quelques questions et de trouver des réponses à quelques questions, trois questions. On va apprendre quelque chose sur Jésus, quelque chose sur Judas, et puis quelque chose sur nous-mêmes. Tout d'abord sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut que nous sachions? Dans un sens, tout ceci n'est pas nécessaire. Jésus va être livré, Judas va le trahir. Donc pourquoi est-ce qu'il doit en parler? Il pourrait s'en passer, il pourrait parler d'autre chose avec les disciples. Il va en fait plomber l'ambiance pendant ce souper. Il avait envie d'avoir ce repas avec eux, et là il va parler de sa trahison. Pourquoi Jésus ressent-il le besoin de l'exprimer? Il est clair que Jésus est troublé, il est bouleversé émotionnellement, nous dit le verset 21. Et vous savez, lorsque nous sommes dans des difficultés, nous avons juste envie d'être entourés par des personnes qui nous aiment, des personnes qui sont pour nous, n'est-ce pas? Ou alors on veut être tout seul. Mais quand on est avec des gens, on veut être avec des gens, on sait qu'ils nous aiment, des personnes qui sont pour nous. Et Jésus est là, à la veille de sa mort. Le lendemain, il va mourir sur la croix. Il veut juste être avec des gens qu'il aime, avec ses disciples. Mais là, en face, il y a quelqu'un de fourbe, un menteur. Mais en fait, il ne va pas parler de ta trahison juste pour s'exprimer, juste pour se décharger. Il veut préparer ses disciples. Et on le voit au verset 19. Pourquoi est-ce qu'il parle de trahison? Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis. Ça veut dire que je suis qui je suis. Un peu le nom que Dieu a utilisé, n'est-ce pas? Mais je veux que vous sachiez et que vous continuez à croire que je suis qui je suis. Croire qu'il est qui? On peut dire beaucoup de choses sur Dieu, n'est-ce pas? Sur Jésus, on peut dire qu'il est sauveur et seigneur, on peut dire qu'il est Dieu et homme. Mais ici, je pense que particulièrement, il veut attirer notre attention et confirmer deux aspects de son identité qui sont importantes. D'abord, il est Messie. Et il est Dieu le Fils. Messie, parce qu'il cite le verset 18, quelque chose qui s'est passé à un roi messianique, un roi choisi par Dieu, le roi David. C'était lui qui avait été trahi, n'est-ce pas, à la base. Et Jésus montre qu'il va expérimenter la même chose que le roi messianique de l'Ancien Testament. Être trahi et poursuivi par ses ennemis, on pourrait croire que cela discrédite Jésus. Mais il dit au contraire, c'est exactement ce qui se passe à un Messie, selon nos Écritures. Ne soyez pas découragés, pensant que Jésus ne peut pas être le Messie parce qu'il a été trahi et abandonné et poursuivi par ses ennemis. C'est ce qui se passe à celui que Dieu choisit comme roi. Il veut qu'on continue à croire qu'il est le Messie après le traumatisme que les disciples vont vivre. Dieu le Fils, il y a beaucoup de langage trinitaire, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, et dans la section qui vient, il va encore continuer à développer ce langage trinitaire, Père, Fils, il va parler de l'Esprit aussi beaucoup plus, jusqu'au chapitre 17. Jésus est Dieu le Fils, et il le montre parce qu'en tant que Dieu, il sait à l'avance ce qui va se passer. Il sait ce qui est dans le cœur de quelqu'un comme Judas, même si c'est caché pour les autres. Il sait ce qui est dans le cœur de Simon-Pierre également. Ce sont des signes qu'il est Dieu. Le verset 20 doit être compris dans ce sens. Il dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, et là il parle de Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé au chapitre 15, verset 26, c'est le même verbe, quand il parle d'envoyer le Saint-Esprit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, ça veut dire Dieu le Père. À ce moment-là, il est en train de parler de Trinité. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on parle de Trinité maintenant? Pourquoi est-ce qu'il a l'envie de faire cela? En fait, il y a deux petites sections qui sortent un peu du dialogue. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais en lisant attentivement, Jésus est en train de parler de trahison, il est en train de parler d'aller mourir, et puis il y a deux petites sections comme ça qui sortent un peu du lot. Versets 31 et 32 sur la gloire, et les versets 34 et 35 sur l'amour. Et quand il y a des choses comme ça qui semblent avoir rien à voir, on doit être titillé, on doit être intéressé, et dire, mais pourquoi est-ce que c'est là? On va parler de l'amour tout à l'heure, mais d'abord la gloire. On s'arrête sur ce verset-là. Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, la gloire de Dieu a été révélée en lui. Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. Donc à la croix, la gloire du Fils de l'homme a été révélée. La gloire de Dieu a été révélée en lui. La croix, la mort du Messie, ne va pas être un moment honteux. On pourrait penser que c'est assez honteux, n'est-ce pas? Mourir sur une croix, le rejet de toute la population locale, quelle mort humiliante! Quelle faiblesse apparente aussi lorsqu'il meurt. Mais voici notre Sauveur. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Sa mort ne sera pas un sujet de honte, mais un sujet de gloire, parce que c'est par la croix qu'il va nous sauver. Et ainsi, des siècles plus tard, qu'est-ce qui se passe? De quoi on chante? À quoi on pense? Pourquoi est-ce qu'on remercie Jésus? Pourquoi Jésus est-il célèbre dans le monde entier? Parce qu'il est mort à la croix. La croix est glorieuse. Donc ne pensez pas que la croix qui vient contredit la gloire. Elle confirme la gloire du Messie. Et Jésus est en train d'annoncer à l'avance. Continuez à croire, je vais mourir, mais continuez à croire que je suis Messie et Dieu, Dieu le Fils. Comme vous le croyez. Deuxième question, est-ce que Judas est vraiment responsable de ses actes? Judas. La question que je pose n'est pas psychologique, Parfois, on s'interroge sur la psychologie de Judas. Mais qu'est-ce qui l'a animé pour trahir son maître? Est-ce que c'était la soif de l'argent? Est-ce qu'il espérait que Jésus allait être forcé à se battre et montrer un peu aux Romains qu'il était chef? Est-ce qu'il était insensible à la souffrance des autres? On ne sait pas tout ça. Tout ça, ce n'est que des choses qu'on peut deviner. La question est plutôt théologique. Je sais que quelqu'un va dire, quand on a regardé le rôle de Judas pour trahir Jésus, mais est-ce que c'est vraiment de sa faute? Est-ce qu'on peut vraiment blâmer Judas? Parce qu'en fait, c'était déjà écrit qu'il allait trahir Jésus. Alors, qui peut blâmer Judas? Satan a pris possession de son cœur. Jésus lui a dit d'aller le faire. Judas est-il responsable de ses actes? Eh bien oui, nous sommes tous responsables de nos actes. Dieu nous juge sur ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, parce que c'est nous qui agissons. Dieu aurait pu utiliser quelqu'un d'autre pour faire arrêter Jésus, des Romains, des pharisiens, quelqu'un d'autre, mais Judas voulait le faire. Dieu demeure maître, c'est son plan qui s'accomplit, oui, mais Judas est acteur et donc Judas est responsable. Jésus exprime bien cela, cette dichotomie en Marc 14, verset 21, en disant ceci: « Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. » C'est le plan de Dieu. Il va suivre le plan. « Mais, dit-il aussi, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. » Malheur à lui. L'homme est tenu responsable. Et il y a un indice d'ailleurs dans ce passage aussi au verset 27. Lorsque Jésus parle à Judas, il dit: ce que tu fais, ce que tu fais, fais-le rapidement. Judas va être jugé pour ce qu'il a fait. Alors nous ne pouvons jamais utiliser la souveraineté de Dieu sur toutes circonstances comme une excuse pour notre péché. C'est pas permis. C'est pas permis. Nous pourrions être tentés de blâmer les autres, n'est-ce pas? Adam a dit que c'était la faute de sa femme. Et sa femme a dit que c'était la faute du diable. Le péché, son péché. Quelqu'un d'autre pourrait dire que c'est la faute de ses parents, ou les circonstances ont fait que. Mais ce n'est pas comme ça. Au lieu de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, regardons dans le miroir pour saisir cette vérité qui dérange. C'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui sommes pécheurs. C'est nous qui sommes fautifs. Alors nous ne sommes pas responsables de tout. Nous ne sommes pas responsables de nos parents, de ce qu'eux ont fait. Nous ne sommes pas responsables des circonstances. Mais nous sommes responsables pour notre action, pour notre réaction, pour ce que nous faisons. Nous sommes responsables comme Judas était responsable. Et puis troisièmement, comment devons-nous être? Comment devons-nous être? Nous devons être très humbles. Le sentiment de Jésus était un sentiment de déception en regardant autour de la table. Judas va le trahir, mais tous vont trébucher. Il le dit, tous vont l'abandonner. Et Simon-Pierre était si confiant, n'est-ce pas? Mais il était confiant en lui-même. Il était fortifié parce qu'il disait: « Ah ben le traître, c'est pas moi !» Et il était attaché à Jésus au point de dire qu'il était prêt à mourir pour lui. Mais ce même homme, cette même nuit, quelques heures plus tard, allait dire trois fois qu'il ne connaissait même pas Jésus. Pierre n'était pas à la hauteur de ses propres attentes. Alors ne surestimons pas notre force. Tous nous échouons et tous nous échouerons. L'idée peut facilement nous venir en tête, n'est-ce pas? Cette fausse confiance. Oh, moi, je n'ai pas besoin de sommeil comme les autres. Je n'ai pas besoin de lire ma Bible comme eux ont besoin de toujours lire la Bible pour se fortifier. Moi, ça va. Moi, je n'ai pas besoin de prier comme les autres. Je ne suis pas un homme désespéré. Il doit prier. Je n'ai pas des points faibles face à la tentation, comme les autres qui doivent prier: « Oh Seigneur, éloigne de moi la tentation. » Ce sont des pensées complètement fausses. Nous sommes faillibles. Ces exemples de Simon-Pierre et les autres sont là pour nous montrer nous sommes tous les mêmes. Jésus l'a dit si bien: « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors leur réponse aurait dû être: « Au lieu de dire « Ah, certainement pas moi », leur réponse aurait dû être « Seigneur, protège-nous. Protège-nous, Seigneur Jésus. » Parce que lorsque nous reconnaissons notre état réel, nous venons vraiment à Dieu dans la prière, en comptant sur lui. Mais alors nous voyons en lui le Sauveur parfait. Le message de ce matin est triste, mais il n'est pas censé être déprimant. Il est plutôt censé nous donner de l'espérance, parce qu'il y en a un ici qui sort du lot. C'est Jésus. Il ira où personne d'autre n'ira. Verset 33. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Mais il y va. Jésus va mourir une mort substitutive. Il le dit à Pierre au verset 36. Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. Oui, Pierre un jour va mourir pour sa foi. Il va mourir en s'identifiant avec son Sauveur. Mais ça ne va pas si Pierre meurt en même temps que Jésus. Vous imaginez ça sur la colline ? Jésus en train de mourir pour les péchés de Pierre, et puis Pierre aussi en train de mourir par fidélité à son maître. Ça serait bizarre. On penserait, ouais, en fait, Pierre contribue un peu à son salut parce qu'il montre qu'il est fidèle, il montre qu'il est bon, il est jusqu'au boutiste. Et on ne penserait pas qu'il aurait vraiment besoin entièrement de Jésus. Mais c'est que Jésus, les amis, c'est que Jésus qui sauve. Et personne d'autre, et rien d'autre, et rien de ce que nous faisons ne contribue à notre salut. C'est Jésus entièrement, Jésus seul qui sauve. Je cite souvent cette parole que Pierre lui-même a écrite beaucoup plus tard dans sa lettre 1 Pierre 3, verset 18. Lui, Jésus, le juste, il est mort pour les injustes, pour vous conduire à Dieu. Et dans ces versets, dans cet épisode, nous voyons comment Jésus est juste, pleinement juste, mais aussi comment nous sommes injustes, pleinement injustes. Il est en train de montrer au maximum qu'il faut vraiment quelqu'un de juste et que nous sommes vraiment injustes. C'est comme ça que ça marche. Et avec l'exemple de Pierre, ce que j'aime bien, c'est que Jésus montre qu'il n'est pas venu pour sauver les bons disciples. En disant, ouais, Judas, pas lui, mais des bons comme toi, ouais, ce serait bien, je meurs pour toi. Jésus est venu sauver ceux et celles qui ont échoué, y compris dans notre vie de disciples. Et si tu es chrétien ou chrétienne depuis longtemps, tu peux oublier à quel point même ta vie de disciple est un échec et une déception. On n'est pas à la hauteur. Même le meilleur des disciples avait besoin du pardon complet de Christ. On ne s'en sort pas nous-mêmes. Nous devons être vraiment humbles. Et puis, dernier point, nous devons avoir de l'amour. Nous devons vraiment aimer. Alors, on revient à ce verset 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez comme Jésus. Alors, quand vous allez à un atelier de peinture ou de cuisine, vous voyez des cascadeurs, des gens qui sont vraiment experts parce qu'ils sont vraiment exercés à ce qu'ils font et ils font ça super bien. Vous êtes admiratif, n'est-ce pas? Et vous apprenez alors à les imiter. Ben Jésus, ici, il est expert en amour. Il est extrémiste dans l'amour. Il a montré que l'amour implique le sacrifice, le service, le pardon, comme lui nous pardonne. Cet amour n'est pas un amour donc vague, un sentiment vague, comme un parfum. C'est vraiment du solide, du concret. Et il dit qu'il faut qu'on aime. Mais pourquoi Jésus parle-t-il d'amour ici ? Il va parler plus tard de l'amour, chapitre 15, verset 12. Mais pourquoi est-ce qu'il en parle ici ? Eh bien, je pense qu'il y a deux raisons. D'abord parce que quand nous voyons que les autres sont mauvais, on pourrait être envahi par de la méfiance. Il vient juste de leur dire... En fait, vous allez tous me laisser tomber. Même Simon Pierre, tu vas me renier. Et donc, il pourrait avoir, au lieu de l'amour fraternel, une sorte de soupçon entre eux en disant « Oh là là, pas toi, je ne peux pas te faire confiance non plus. » Mais ce n'est pas ça. On pourrait dire ben, « Vu que les disciples, les chrétiens, sont capables d'abandonner leur maître, moi je ne viens plus à l'église. Parce qu'à l'église, il n'y a que des gens pécheurs. » Eh bien, si tu fais le constat que les chrétiens sont décevants, eh bien, bravo, tu as des yeux. Mais ce n'est pas une raison. Parce que Jésus le savait pertinemment. Et pourtant, il faut les aimer. Pourtant, il faut nous aimer les uns les autres. Comme ça, les autres reconnaîtront que vous êtes ses disciples. Disciples du Sauveur qui les a aimés. Vous savez, Dieu est invisible. C'est évident, Dieu est invisible. Mais la Bible montre qu'il se révèle de au moins trois manières. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient par la création du monde. La création révèle ce Dieu invisible. Romains 1. Jean 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, l'a fait connaître. En Jésus, on voit Dieu. On voit Dieu, Dieu n'est pas invisible. Là, en Jésus, il est vu, il est visible. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais ce même disciple qui est aimé par Jésus, il enchaîne dans sa lettre. Jean écrit ceci en 1 Jean 4. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vous voyez ce qui est en train de se passer là? C'est que ce Dieu invisible, notre amour fraternel le rend visible au monde. Et donc les gens disent, « Ah, je vois que vous êtes disciples de Jésus. » On voit Jésus. Il n'est plus présent auprès de nous, physiquement. Mais on le voit, Jésus, quand nous nous identifions avec Jésus par l'amour pour ses disciples. Alors Dieu connaît notre cœur. Il sait tout de nous. On ne peut pas se cacher. Il connaît la réalité de notre situation. Et dans un sens, oui, nous sommes décevants parce que nous ne sommes pas bons ni fidèle, mais il nous aime. Et Jésus est mort pour que nous puissions vivre avec lui, le suivre et aimer non seulement Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais aussi aimer les autres chrétiens que Dieu aime. Prions. Oui Seigneur, nous reconnaissons que nous pouvons donner la gloire, nous devons donner la gloire à ton Fils. Parce que sa mort est glorieuse. Nous reconnaissons aussi, Seigneur, notre responsabilité pour nos fautes, pour nos actes. Nous ne pouvons pas cacher cela de toi. Nous ne pouvons pas blâmer les autres. Nous prions que nous puissions être honnêtes sur ce point. Mais donne-nous aussi, Seigneur, d'être humbles, de ne pas surestimer nos capacités et de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est beaucoup demandé, mais nous savons aussi que ton amour est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit et que tu nous animes, que tu nous transformes et que tu nous aideras à t'aimer et à aimer notre prochain dans l'Église pour que ta nature, ton amour soit manifesté encore au monde aujourd'hui. Merci. Merci pour tout. Amen.
Amen. Merci, merci Paul. Et gloire à notre Dieu qui nous restaure par sa parole, qui nous rappelle que sans sa présence, nous sommes en échec total. Sans le Seigneur, c'est l'échec garanti. Quelques annonces pour notre communauté ce jeudi le 25. À 19h30, ici à l'église, il y a l'étude biblique. Et Paul, notre pasteur, va nous parler sur la différence entre Pentecôte et pentecôtisme. Un sujet intéressant. Quelle est la différence? Alors, tout le monde est convié ici à 19h30. Vous venez vous sonner à la salle polyvalente. On aura la joie d'ouvrir et de passer du moment à étudier la parole de Dieu ensemble. Les jeunes, ils ont leur réunion ce vendredi, un groupe de jeunes. Pour plus d'infos, adressez-vous à Pierre et Léon. ils vont vous donner plus d'informations. Jeudi, le 1er juin, on peut déjà annoncer nos réunions de groupe de maison. Et un sujet intéressant qui clôture le grand sujet sur la sanctification que nous venons de voir. On parlera de le monde et son influence. C'est le dernier chant. Sola gratia, ta grâce seule, amour parfait de Dieu.
Ce dernier chant, c'est un nouveau chant, donc ceux qui le connaissent, chantez bien fort. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule. Tu m'as racheté. Oh, ah, ah. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ah, ah. Ta grâce ne faillit
gloire à notre Seigneur. Quelques versets pour ce que nous, dans la continuité de ce que nous venons d'entendre de la parole de Dieu, qui nous rappelle que nous ne sommes pas mieux que Judas, nous ne sommes pas mieux que Pierre. C'est en Proverbe chapitre 3 que j'avais trouvé ces versets, ne sachant pas ce que Paul allait enseigner, bien sûr. Au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. » Bon dimanche à tous. Nous nous retrouvons au sous-sol pour notre communion fraternelle.